Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. L'un des éléments qui permet de déterminer si un État fonctionne correctement, c'est son aptitude à lever l'impôt. Auprès des entreprises comme des simples citoyens. La collecte fiscale permet de financer les infrastructures, de rémunérer les enseignants, de faire tourner le système hospitalier et le judiciaire, de rémunérer policiers et soldats ou de payer la dette extérieure. Encore faut-il que les contribuables consentent à payer l'impôt. En France, celui-ci fait parfois peur et la fraude fiscale coûte cher à l'État. En Europe, les entreprises multinationales s'ingénie à contourner l'impôt et c'est la même chose sur le continent africain. Alors comment l'Afrique fait-elle pour lever l'impôt ? Telle est la question que nous posons dans cette émission et à laquelle deux invités vont répondre. Je vous les présente tout de suite. Bonjour Kako Nubuko.
Bonjour.
Kako Nubuko, vous êtes chercheur au CIRAD, professeur agrégé d'économie à l'université de Lomé, le Togo, où vous avez été ministre de la prospective. Et avec vous dans ce studio, Grégoire Rota-Graziosi, bonjour.
Bonjour.
Grégoire Rota-Graziosi, vous êtes professeur d'économie à l'université d'Auvergne, à Clermont-Ferrand, et vous y dirigez le centre d'études et de recherche sur le développement international, le CERDI. Vous venez de finaliser un long document consacré au fisc africain et destiné au Trésor français et aux commissions de la CEMAC, qui concerne l'Afrique centrale, et l'UMOA pour l'Afrique de l'Ouest. Alors bien sûr, dans cette émission des reportages, nous rejoindrons Sébastien Nemeth à Nairobi au Kenya, François Hume Cherkataji au Caire en Égypte et William Delesseux à Dakar. Cette question de la fiscalité dans les pays africains était au cœur de la réunion des pays de la zone franc qui a eu lieu lundi 8 octobre dernier au ministère des Finances français à Paris, à Bercy. Des objectifs ont été fixés, expliquait ce jour-là le ministre français Bruno Le Maire au micro de Stanislas Daïchimier.
Nous voulons qu'il y ait une meilleure mobilisation des recettes fiscales dans l'ensemble des États de la zone franc pour garantir la solidité du développement économique de tous les pays de la zone franc, sans exception, et pour prévenir aussi le risque d'endettement. Une meilleure mobilisation des recettes fiscales, c'est plus de croissance et c'est moins d'endettement. Donc nous estimons que c'est indispensable d'avancer dans cette direction. Nous avons même fixé, en accord avec l'UMOA, l'objectif d'atteindre 20% des recettes fiscales dans la richesse nationale, dans le produit intérieur brut, avec pour cela un engagement de chacun des États membres de l'UMOA de progresser d'un point de recettes fiscales par an par rapport à la richesse nationale.
Lors de la même conférence de presse, le ministre béninois de l'économie, Romuald Ouadani, expliquait le travail accompli par les pays d'Afrique de l'Ouest, de l'UMOA, au cours des dernières années.
Il y a un volet d'harmonisation des pratiques fiscales pour que les entreprises ne profitent pas des divergences de politique fiscale pour ne payer nulle part, finalement. Donc il y a un plan d'action clair qui fait des propositions d'action concrètes dans ce sens. Il y a également tous les chantiers que nous avons sur la modernisation de l'administration et particulièrement de l'administration fiscale. Et à chaque fois qu'au niveau de l'Union, nous nous voyons, aussi bien dans la zone ou lors de ces réunions comme aujourd'hui, nous avons des échanges de bonnes pratiques.
En Afrique centrale, une région plutôt en retard sur le plan économique, on progresse aussi dans la levée de l'impôt. Écoutez ce qu'en dit le gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique centrale, Abbas Mahamat Toli.
Nous constatons qu'en moyenne sur 5 ans, le taux de pression fiscale qui est passé de 9% à 12% en 2018. Et sur cette période, le cas qui illustre bien cette progression, c'est celui d'un pays qui est passé de 4 à 9% sur cette période. Et pour l'essentiel, s'agissant des pays qui sont en programme, il y a aussi des mesures concrètes qui visent les administrations fiscales, la modernisation, l'introduction de l'outil informatique, et aussi la suppression des exonérations qui sont accordées à ces niveaux. Tout cela permet justement de rationaliser et accroître la mobilisation des ressources fiscales.
Grégoire Rota-Graziosi, Kakonobuko, toutes ces questions fiscales sont très compliquées, alors on va essayer de faire simple dans cette émission. En quelque sorte, le décor a été planté avec ces trois interventions qu'on vient d'entendre, Abbas Mahamat Oli, Romuald Ouadani et Bruno Le Maire, le ministre français. Première question, 20% du PIB en impôts, chiffre donné par Bruno Le Maire, cela veut dire quoi, Grégoire Rota-Graziosi?
Bon, 20%, je crois que c'est le nouveau critère de convergence des pays membres de l'UMOA. C'est aussi repris par la CDAO. Mais il faut savoir que la Banque mondiale fixe à 15% le niveau minimum pour que l'État ne soit pas considéré en faillite, en défaillant, pour procurer les services de base, de sécurité, notamment, et d'ordre. Et 20%, il faut bien prendre en compte que le PIB varie d'un pays à l'autre et que 20% pour les pays d'Afrique centrale riches en pétrole, c'est énorme en termes de recettes fiscales pures, hors ressources naturelles. Et que le retard, soi-disant, de certains pays de la CEMAC, en fait, est lié uniquement au fait qu'une grande partie de leur PIB est exportée sous forme de pétrole.
Et donc
leur pression fiscale est plus faible, automatiquement plus faible lorsque vous la rapportez à un PIB dont une grande partie est exportée.
Pourquoi ?
Parce que l'un des principaux impôts qui rapporte de l'argent à tous les États africains et même au niveau mondial, c'est la TVA, une taxe sur la consommation. C'est lié à des évolutions, sur plusieurs décennies. La fiscalité directe liée à la mobilisation des capitaux est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Les schémas d'optimisation fiscale agressive limitent les recettes de l'impôt sur les sociétés. Et donc, il a été plus facile de lever de l'impôt sur les consommateurs qui sont moins mobiles, et donc par le truchement de la TVA, dont une grande partie est également collectée en douane et qui participe à ce que l'on appelle la transition fiscale.
Kakonobuko, on va commencer par parler de cette question de l'optimisation fiscale que Grégoire Rota-Graziosi qualifie d'agressive. Beaucoup de rapports font état d'un manque à gagner de l'Afrique de 80 milliards de dollars. Justement, en raison de l'habileté des entreprises internationales à se jouer des règlements fiscaux nationaux, est-ce que l'Afrique a les moyens d'y remédier?
Oui, l'Afrique a les moyens d'y remédier, mais cela suppose une gouvernance publique à améliorer de deux façons. La première, c'est ce qu'on appelle le rendement fiscal, donc la manière dont les administrations fiscales sont organisées, parce qu'il y a quand même beaucoup de fuites.
Qu'est-ce que vous appelez des fuites?
C'est, pour dire les choses clairement, les détournements. Quiconque connaît un peu l'Afrique sait qu'il y a souvent de petits arrangements entre les collecteurs d'impôts et les citoyens qui doivent payer l'impôt, et que tout n'est pas reversé dans les caisses des administrations fiscales. Mais il y a un élément plus important, ce sont les règles que se fixent les États en matière de contrats avec les grandes entreprises. Les États, pour être attractifs, en tout cas certains d'entre eux, ont tendance à offrir beaucoup d'exonérations, notamment par rapport au rapatriement des bénéfices. Et au final, ça joue sur le montant des recettes fiscales.
C'est-à-dire, Grégoire Rota-Graziosi, que les entreprises minières, par exemple, ou pétrolières, n'ont pas besoin de tricher pour sortir leurs bénéfices sans payer d'impôts. Il y a le consentement des États africains.
Bon, je suis désolé, c'est assez complexe. Monsieur Kako a raison. D'une part, les États, et notamment les pays de la zone France, sont très harmonisés de juré. C'est-à-dire qu'ils ont plus ou moins tous hérité du même code des impôts au moment de leur indépendance. Donc leur système fiscal est très similaire. Maintenant, ils continuent à compétitionner entre eux au sein des zones douanières par des régimes dérogatoires, par des exonérations. L'UMOA, par exemple, a récemment, depuis 2015, promulgué une décision pour publier ce que l'on appelle les dépenses fiscales. En France, on appelle ça des niches fiscales, mais dans le reste du monde, ça s'appelle des dépenses fiscales. C'est-à-dire tous ces régimes dérogatoires qui dérogent au droit commun qui est écrit dans le Code général des impôts, tous ces régimes, ces conventions particulières d'établissement donnent lieu à une estimation qui est publiée en annexe des lois de finances. Et les États membres de l'UMOA commencent à publier ça systématiquement. Et l'on voit les pertes de recettes en termes de points de PIB. On parle de 3, 4, 5, 6% de PIB selon les pays.
C'est énorme.
C'est énorme.
C'est-à-dire que ça coïncide avec ces estimations qui sont distillées publiquement régulièrement par les ONG de 80 milliards de dollars de pertes d'optimisation fiscale.
Encore une fois...
c'est différent.
C'est lié. Mais vous avez dans ces dépenses fiscales aussi des mesures dérogatoires qui visent à protéger, soi-disant, les populations les plus pauvres en exonérant les biens de première nécessité à la TVA, pour espérer avoir un prix de ces biens de première nécessité plus faible. Après, il apparaît souvent que les exonérations, par exemple, de TVA sur le riz, ne profitent guère aux populations les plus pauvres qui elles-mêmes produisent déjà du riz, qui en fait, et donc profitent plutôt aux intermédiaires, aux importateurs. Ça avait été le cas d'une étude faite au Sénégal. Donc, dans ces dépenses fiscales, vous avez des mesures incitatives qui visent les entreprises et aussi des mesures de protection des plus pauvres. Donc, ça agrège tout ça. Et lorsque vous soulevez le problème de l'optimisation fiscale agressive, c'est vrai, et de la fuite des capitaux, vous avez effectivement des États qui ont signé des conventions qui ne sont pas systématiquement rendues publiques. Et effectivement, il y a des exonérations complètes des grands impôts que sont l'impôt sur les sociétés ou même, bien sûr, les droits de douane et autres. Et les droits de douane peuvent être justifiés, hein. Encore une fois, on veut rendre attractif l'Afrique, rendre des pays plus attractifs. Et le discours classique, c'est on n'a pas d'infrastructure, la main-d'œuvre est peu qualifiée, donc on va exonérer. Et on tombe sur l'exonération fiscale pour gagner en productivité.
Kakonwoko, c'est un bon calcul, cette exonération fiscale ?
Oui, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en plus de ces exonérations, les grandes entreprises ont tendance à camoufler les vrais chiffres. Et on a eu le cas du scandale Glencore en Zambie. Et par trois voies standards, la première voie, c'est que ces grandes entreprises sous-estiment leur production.
C'était le cas de Glencore ?
Exactement.
Ouais.
Deuxième voie, c'est que ces grandes entreprises ont ce qu'on appelle des coûts d'exploitation qu'elles surestiment. Comme ça réduit les bénéfices annoncés. Et troisième élément qu'elles utilisent souvent, c'est qu'elles vendent à leur maison mère, parce que ce sont souvent des filiales. Et elles vendent à leur maison mère à ce qu'on appelle des prix de transfert assez faibles. Quand vous additionnez ces trois éléments, déjà, la base imposable se réduit. Et c'est pour ça que l'initiative pour la transparence des industries extractives avait mis en évidence le cas de Glencore, qui est un cas emblématique.
Mais il y a quand même, Kakonwoko, des entreprises qui payent des impôts en Afrique.
Oui, mais quand vous voyez les chiffres, les 80 milliards dont vous avez parlé, plus ce que la Commission économique pour l'Afrique, la CEA, nous a annoncé, c'est-à-dire 50 milliards d'évasion fiscale. Bon, après, il faut voir tous ces chiffres avec du recul, hein. Bon, ça commence à faire beaucoup. Parce que pour vous donner un ordre de grandeur, 50 milliards de dollars, c'est quasiment trois fois les montants des réserves de change des pays de la zone franc.
Grégoire Rotta-Graziosi, je vous repose la même question. Il y a quand même des entreprises qui payent des impôts en Afrique.
Alors, si vous avez accès, comme j'ai pu le faire...
Je ne parle pas seulement de la zone franc, je parle de toute l'Afrique.
Oui. En termes de fiscalité directe, assise sur les bénéfices donc des sociétés, les principaux contribuables sont une poignée, hein, sont moins d'une vingtaine ou d'une trentaine d'entreprises par pays. Hein, ça va être, essentiellement des secteurs réglementés, donc la téléphonie mobile, le secteur bancaire, les marketeurs qui sont les distributeurs d'essence, parce que leur activité est très étroitement réglementée. Ensuite, vous avez effectivement les sociétés minières ou pétrolières, mais qui peuvent, ça dépend dépendant des pays, qui peuvent complètement faire de l'optimisation très agressive. Le cas de Glencore, c'est vraiment le cas flagrant. Elle a été condamnée non seulement en Zambie, mais également en Suisse. Elle avait une filiale à l'île Maurice, je crois, où elle vendait à terme, via un produit de hedging, bon, c'est un produit financier, mais c'est-à-dire qu'elle vendait à elle-même le minerai de cuivre, mais au tiers de sa valeur, au prix du marché mondial. Donc elle ne dégageait aucun bénéfice en Zambie pendant, je crois que ça a été fait pendant 20 ans, 20-25 ans. Donc elle déclarait systématiquement des pertes. Donc il n'y avait pas d'impôt direct, il n'y avait pas d'IS. Après, il y avait des recettes liées à la redevance minière, qui est assise sur le chiffre d'affaires, mais lui-même avait été sous-évalué par ce produit de hedging.
Alors vous aviez parlé tout à l'heure de TVA, Grégoire Rotta-Graziosi. Voilà un premier exemple. Le mois de septembre a vu se dérouler un feuilleton fiscal à rebondissement au Kenya. La nouvelle loi de finances a instauré une taxe de 16% sur les produits pétroliers et les prix de l'essence ont explosé, entraînant une grogne populaire. Finalement, le président Kenyatta a demandé une réduction de cet impôt à 8%. Le nouveau texte est entré en vigueur fin septembre, mais il est symptomatique des problèmes économiques de ce grand pays de l'Est africain. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Sébastien Nemeth à Nairobi.
Dans le bidonville de Kangemi, les Matatu, les bus collectifs, sont à la recherche de clients, mais les passagers sont devenus plus difficiles à trouver depuis que la nouvelle taxe sur les produits pétroliers a fait augmenter le prix de l'essence et donc celui des transports. Silas Kanyeri, chauffeur.
Les clients se plaignent. Certains se déplacent à pied parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Avant, ça prenait une dizaine de minutes pour remplir le bus. Maintenant, il faut 15 ou 20 minutes. Le gouvernement a besoin d'argent et on a déjà vu des hausses de 1 ou 2 points. Mais là, c'est trop élevé.
Depuis plusieurs années, la dette kényane explose. Elle atteint 60% du PIB, plaçant le pays dans le top 5 des pays africains endettés. Tendance à laquelle s'ajoute un important déficit public. Il dépassait les 9% en 2016. Avec la nouvelle loi de finances, le gouvernement espère passer sous les 6%. Pour l'économiste Ali Kansachou, le gouvernement paye aujourd'hui plusieurs années d'erreurs politiques.
Ce sont les symptômes d'une maladie que l'on voit à travers l'Afrique subsaharienne, où les gouvernements ont trop emprunté, où leurs projets n'ont pas eu le retour sur investissement suffisant. Et maintenant, nous avons atteint le point critique. Il faut rembourser les dettes, payer les intérêts, et donc le gouvernement taxe ses citoyens. Le premier problème, c'est le coût du gouvernement. Il est beaucoup trop élevé. Un député kényan est par exemple mieux payé qu'un député allemand. Ça n'a aucun sens. Un système de décentralisation a été mis en place, avec de multiples copies du gouvernement central. Cette nouvelle taxe sur l'essence est une stratégie économique farfelue. Dans une économie normale, on appliquerait une austérité au sein du gouvernement. Mais le Kenya continue de taxer la population et ça durera jusqu'à ce que les gens disent « c'est assez ».
Isaiah est chauffeur de bus, il ne dit pas mieux. Pour lui, le gouvernement fait payer ses errements aux plus modestes.
Au Kenya, il y a les propriétaires de première classe, ceux de deuxième classe et ceux tout en bas de l'échelle. Or, ce sont eux les plus touchés. Nos dirigeants sont riches, ils font des affaires, ils ont de l'argent. Vous voyez le propriétaire de mon bus, à la fin de la journée, je dois lui rapporter 10 000 shillings. Je dois me lever très tôt et travailler dur pour rassembler l'argent. J'ai beaucoup de pression.
En 2014, le gouvernement a dû rembourser 3 milliards de dollars de dettes. Cette année, le chiffre frôle les 9 milliards. Kwame Owino, directeur de l'Institute of Economic Affairs de Nairobi.
Le gouvernement n'avait plus le choix. Il avait tellement dépensé, créé des impôts sur tout, sur la téléphonie, sur l'alcool. Maintenant, le carburant est géré par de grandes entreprises. C'est donc une taxe très facile à récupérer. Certains départements du gouvernement dépensent des sommes énormes en essence, en communication, en matériel de bureau. Les agents peuvent doubler leur salaire mensuel grâce aux perdièmes qu'ils reçoivent en voyageant. Il faut donc plafonner toutes ces dépenses. Si on regarde la part des impôts dans le PIB, le Kenya a un des taux les plus élevés du monde par rapport aux pays du même niveau. Donc notre collecte d'impôts est efficace. Mais l'efficacité de nos dépenses est très faible. La façon dont on utilise notre argent ne génère pas assez de croissance. Et c'est dû à la corruption et au gaspillage.
En attendant, les citoyens modestes payent l'addition et subissent le coût de la vie, comme l'explique Patrick Kariuki, chauffeur à Nairobi.
Je vivais ici avec ma famille, mais j'ai dû les envoyer s'installer au village parce que les prix des loyers et de la nourriture avaient trop augmenté. On ne pouvait pas survivre ici avec 3 enfants. Donc ils sont partis et moi je reste à Nairobi tout seul. Je vais les voir le week-end.
La situation a mécontenté le FMI qui n'a pas renouvelé un accord prévoyant un prêt $1 milliard en cas de choc économique. Le gouvernement kényan a de toute façon déclaré qu'il n'en avait pas besoin.
Reportage signé Sébastien Nemeth à Nairobi dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de la fiscalité en Afrique avec deux invités, Grégoire Rota-Graziosi, professeur d'économie à l'université d'Auvergne à Clermont-Ferrand, directeur du CERDI, et Kakono Bukpo, chercheur au CIRAD, professeur d'économie à l'université de Lomé au Togo. Quelle réflexion, Grégoire Rota-Graziosi, vous inspire ce reportage de Sébastien Nemeth? On voit finalement les impôts sont, semble-t-il, fort mal utilisés.
Oui.
Est-ce que c'est la question principale qui explique peut-être la difficulté de lever l'impôt, même si on nous dit ici que l'impôt est massivement prélevé au Kenya?
Alors là, je mettrais... Bon, c'est à discuter. Je ne suis pas si sûr de ces taux de pression soient aussi élevés. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est voilà, vous avez typiquement ce que souhaite, par exemple, la Commission de l'Union européenne, qui est, avec le système fiscal, on crée une certaine redevabilité. C'est-à-dire que leur programme, le programme important de la Commission de l'Union européenne pour les pays en voie de développement s'appelle Collect More, Spend Better. Mieux collecter ou collecter davantage pour mieux dépenser. Et donc là, parce qu'il y a une révision de la fiscalité, notamment sur les produits pétroliers, mais encore faudrait-il savoir si ces prix ne sont pas régulés au Kenya et qu'ils n'étaient pas largement subventionnés, auquel cas ils coûtaient beaucoup à la fin, et donc il y a un relèvement peut-être de ces prix sur ces produits pétroliers qui touchent toute la population, enfin la population motorisée, donc pas forcément les plus pauvres des pauvres qui sont dans les zones rurales. Encore faudrait-il que le chauffeur soit aussi conscient qu'il y a besoin de dépenses sur les infrastructures. Alors après, il y a une certaine redevabilité, puisque apparemment ils se plaignent des salaires excessifs des députés kényans par rapport aux députés allemands, ce qui est très intéressant. Donc là, on a vraiment par la fiscalité, et là, on arrive à améliorer aussi, à mettre une pression sur les gouvernements pour améliorer la collecte, la qualité de la dépense, ce qui est très important. Parce que
c'est ça que vous appelez la redevabilité, c'est-à-dire je paye un dollar ou un shilling d'impôt, voilà. De taxe, oui. Je veux qu'en échange, il y ait quelque chose qui me rapporte à moi.
C'est ça. C'est parce que je suis taxé que je demanderai au gouvernement des comptes à rendre sur la dépense. C'est aussi ça qui explique la fameuse malédiction des ressources naturelles. Par exemple, des pays très riches en produits pétroliers reçoivent une manne sans avoir à taxer leur population. Ça explique aussi peut-être en partie le retard des pays de l'Afrique centrale et de la CEMAC. Et donc, il n'y a pas la même redevabilité vis-à-vis des gouvernés, des populations qui ne sont pas taxées dans les pays riches en pétrole.
Kakonobuko, sur cette question de la redevabilité, parce que je paye de l'impôt, je peux exercer une pression sur mes gouvernants. Est-ce que c'est quelque chose que vous, quand vous étiez ministre de la prospective au Togo, ou comme professeur d'économie à Lomé, vous mesurez au quotidien ?
Oui, c'est pour ça que nous insistons sur le contrôle citoyen de l'action publique. Mais il y a un autre élément dans le reportage, c'est la question de l'équité. On voit bien que la charge fiscale n'est pas équitablement réparti. Aujourd'hui, quand vous circulez dans les villes africaines, vous voyez que la classe moyenne urbaine s'estime ultra matraquée fiscalement. Alors que le secteur informel, qui, d'après les estimations du FMI, représenterait autour de 30% de la richesse créée, est plutôt mal fiscalisé. Il y a un ancien ambassadeur de France en Afrique qui résumait en ces termes la fiscalité africaine. Il disait on surtaxe les entreprises françaises installées en Afrique pour rembourser la dette contractée auprès des Chinois. Et donc, c'était une façon de dire qu'il n'y avait pas d'équité dans la fiscalité africaine.
C'est un peu caricatural, Grégoire Rota-Graziosi, cette
oui, je
phrase
pense. D'un... Oui, complètement caricatural. Enfin, même, peut-être que l'ambassadeur avait une mission de protéger certains intérêts français. Honnêtement, non, on surtaxe pas les multinationales françaises, même si cette optimisation fiscale agressive, elle n'existe, elle ne peut exister que si vous avez des traités de non-double imposition entre un pays africain et un pays européen, américain ou autre. Parce que ces traités limitent le pouvoir de taxation du pays africain sur une transaction internationale et notamment le modèle OCDE qui privilégie le principe de résidence, c'est-à-dire que donne le droit résiduel de taxer cette transaction internationale au pays d'où viennent les capitaux et non pas là où le capital travaille.
C'est-à-dire qu'une entreprise américaine ou française qui exploiterait des gisements de cuivre ou de pétrole dans un pays africain ne pourrait payer d'impôts que là où est son siège social, là d'où viennent les capitaux et pas à l'endroit où il est exploité.
Pour faire simple, suivant le modèle de l'OCDE, où il y a une variante, hein, il y a le modèle de traité de non-double imposition des Nations Unies. Pour faire simple, effectivement, le pays où réside le détenteur de capital possède le pouvoir résiduel de taxation sur le versement d'intérêts par la filiale africaine. Ne vous inquiétez pas, le français n'investira jamais directement depuis la France, il passera par le Luxembourg. Mmh. Parce qu'il y a une fiscalité en France. Hein.
Oui. Et pas au Luxembourg. Alors, une grande question quand même que tout le monde se pose concernant l'impôt en Afrique. la population africaine est malgré tout encore relativement pauvre. Comment est-ce qu'on peut imposer des gens dont les revenus sont minimes, Grégoire Ottagracioussi?
Alors, oui, on parle de pression fiscale en termes de PIB, donc on prend en compte aussi le niveau de revenus. Hein. Après, le critère de 20%, si le Sénégal est très proche, hein, il est à plus de 18%, c'est vrai que d'autres pays africains sont largement en dessous des 10% de pression fiscale, et c'est essentiellement lié à de l'optimisation. Je veux dire, la population très très pauvre, elle est hors marché, elle n'est même pas fiscalisée. Ensuite, une population qui est fiscalisée indirectement, elle est fiscalisée par la TVA. Elle n'est
c'est-à-dire
pas fiscalité.
Chaque fois qu'elle achète un produit, elle paye de l'impôt.
Chaque fois qu'elle achète un produit fourni par une entreprise assujettie à la TVA. Typiquement, et encore une fois, on retombe sur, par exemple, la téléphonie mobile. Chaque fois qu'elle consomme de la minute, elle paye un impôt. Donc elle est fiscalisée. Elle est, parfois même, ces petits informels dont on va parler peut-être plus tard, sont largement fiscalisés.
Kakonoubukpo?
Mais indirectement.
La pauvreté, est-ce que ça n'est pas un obstacle au paiement de l'impôt?
Non, il y a deux choses qui sont différentes. La première chose, c'est que la base productive elle-même est étroite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de création de richesses, et donc il est difficile de prélever à due proportion l'impôt. Ensuite, il y a la question de la justice fiscale, c'est-à-dire qu'en Afrique, la fiscalité indirecte, donc on vient de parler de la TVA, apporte beaucoup plus que la fiscalité directe, comme les impôts sur les revenus. Pour vous donner une proportion, on est autour de 52% dans la fiscalité qui vient de la TVA. Or, la difficulté, l'injustice qui est liée à la TVA, c'est que la part de la consommation dans les revenus des plus modestes est beaucoup plus élevé que la part de la consommation dans les revenus des plus riches. Or, ils sont tous taxés de la même façon. Et quand vous allez vers l'impôt direct, on se rend compte qu'une grande partie du patrimoine, donc ce sont les riches qui ont du patrimoine, elle n'est pas fiscalisée, cette part des revenus liés au patrimoine. Donc c'est peut-être aussi une niche pour l'accroissement des recettes fiscales en Afrique, aller vers la fiscalisation.
Vous avez tout à fait raison, je voulais même compléter, l'impôt manquant en Afrique, c'est l'impôt foncier. Et c'est l'impôt le plus juste. Il n'y a pas de concurrence parce que le foncier ne bouge pas d'un pays à l'autre. Hein. Et celui qui détient du foncier est relativement plus riche que celui qui n'en détient pas. Eh bien, l'impôt foncier ne rapporte rien, n'est pas levé en Afrique. Alors qu'il est
Pourquoi
essentiel aux États-Unis et en France.
Pourquoi?
Là, on rentre dans des problèmes de politique. Historiquement, c'était des problèmes de cadastre, on avait du mal à recenser les propriétés foncières et tout. Là, je pense que, vu les techniques modernes avec les images satellites et autres, on pourrait faire beaucoup mieux. Il y a beaucoup de programmes, hein, je pense à l'Agence française de développement, l'Union européenne, beaucoup de travail à essayer de formaliser le foncier pour le fiscaliser.
Donc c'est un problème politique, là, de volonté politique des gouvernants.
Oui.
Alors
en partie,
vous avez parlé, Grégoire Ottagracioussi, du Sénégal tout à l'heure. Kako Nubuko, vous avez parlé informalité. On y va. Sénégal, le secteur informel emploie plus de 2 millions de travailleurs, soit un actif sur deux. C'est un secteur clé de l'économie qui représente là plus de 40% du PIB dans le pays. Ce sont des estimations. Le secteur, par définition, échappe aux vraies statistiques fiables, mais pas forcément à l'impôt. À Dakar, au marché du quartier HLM, un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé William Delessous.
Au marché HLM, toute la ville vient pour trouver des tissus, mais aussi des couturiers. Dans un grand bâtiment de faïence noire et blanche, Rougaïou Kane, sur un tabouret, finit de coudre une broderie en fil doré sur un costume.
Bon, c'est moi qui ai dessiné ça, et les finitions, c'est à moi de faire ça. Bon, aujourd'hui, on fait coudre les habits, on a des commandes à faire. Des habits des Guinéens, des Maliens, on le fait ici, les coutures. C'est la commande de la semaine. Ça fait presque 50 complets que je suis en train de terminer là.
Avec ses 4 employés, la couturière dit gagner entre 500 000 et 800 000 francs CFA par mois, soit entre 750 et 1200 euros.
On couvre au moins notre besoin. Ça nous permet de manger, les études des enfants, tout. C'est là que je paye ça. On travaille de jour au jour. On ne peut pas garder quelque chose. C'est ça le problème. Les charges, c'est beaucoup. On paye la patente, on paye l'abonnement par mois. On a des charges, on paye ça aussi.
C'est combien environ?
Bon, ça dépend. De part A, on paye les machines. Chaque machine, on paye à 15 000. Bon, les patentes, c'est un peu cher. Mais les abonnements, c'est très normal.
L'abonnement, il est reversé à la mairie pour l'entretien du marché. La patente, c'est une taxe établie ici par machine à coudre. Cette patente n'existe plus en tant que telle dans la loi. Elle résulte en fait de l'appréciation de chaque fonctionnaire des impôts qui vient à la rencontre de chaque couturier tous les ans. Le montant de l'impôt est déterminé au cas par cas selon des critères libres comme le nombre de machines ou d'employés. Des critères tout de suite vérifiables. Preuve que l'administration s'est adaptée à l'informel qui ne tient pas de compte et ne déclare pas ses revenus. Amadou Diallo est une figure du marché. Couturier, lui aussi, depuis 1988, il utilise une machine qui ressemble à un gaufrier pour appliquer des perles sur un vêtement. Lui aussi paye ses impôts.
Il n'y a pas de problème si on gagne. Mais si on ne gagne pas, franchement, ce n'est pas facile. Et puis nous, il y a beaucoup d'enfants qui ne font pas école. Ils viennent ici, on forme. Ils gagnent son métier. On forme les gens, moi j'ai formé plus de 30 personnes.
Une participation à la formation des jeunes qu'il aimerait bien voir récompensés par moins d'impôts. D'après lui, le monde de HLM, celui de l'informel, est en crise. Le problème, selon le couturier, ce sont les nouveaux entrants formels. Il s'agit d'entreprises et de commerces en gérance. Nouveaux commerces comme celui d'Amadou Di, à la tête d'une boutique de tissus importés.
On paye l'impôt. Quand tu peux être tranquille, mais c'est important parce que tout ça, ça va aussi arranger la pays, c'est le développement.
Pour cet acteur formel, pas question de frauder. Des contrôles renforcés, un consentement à l'impôt qui se généralise. Résultat, au Sénégal, les recettes fiscales ont augmenté de plus de 10% par rapport à l'année dernière.
Un reportage signé William Delesseux à Dakar. Kakonoubukpo, est-ce que le Dakar est un bon élève de la levée de l'impôt en Afrique ?
Oui, toute proportion gardée, le Sénégal est un pays qui fait beaucoup d'efforts. Comme on le disait tout à l'heure, statistiquement, on remarque que plus le taux de pression fiscale est élevé, plus l'État assume ses fonctions régaliennes. Pour vous donner un exemple, en RDC, on est autour de 10% de taux de pression fiscale. Et le pays qui fait le mieux en Afrique, c'est la Tunisie, où on dépasse 30% de taux de pression fiscale.
On va rappeler, taux de pression fiscale,
voilà,
ça veut dire quoi ?
C'est le montant de recettes fiscales rapportées à la richesse créée chaque année.
C'est-à-dire que l'État capte 30% de la richesse créée via l'impôt.
Exactement. Ça, et en contrepartie, est censé fournir les services publics liés à cette captation d'une partie de la richesse créée.
Et donc, revenons au Sénégal, beaucoup d'informels dans cette économie, mais visiblement des informels qui ne sont pas tous pauvres, au contraire, puisqu'on entendait cette dame nous dire qu'elle gagnait 1 200 € par mois et qu'elle payait de l'impôt. Alors, c'est une image atypique.
Non, vous avez deux choses qui se rejoignent. Il y a une fiscalité que moi je qualifie de sauvage. Parce que quand vous allez dans les grands marchés en Afrique, vous voyez très bien que les bonnes femmes payent tout l'impôt. Mais on ne sait pas où passe cet impôt. Et puis, il y a un autre élément qui rend les choses difficiles, c'est que ce sont souvent les mêmes personnes ou les mêmes entreprises qui sont à la fois dans le formel et dans l'informel. Je veux dire, cette double appartenance peut très bien être une forme de gestion rationnelle d'un portefeuille. C'est pour ça que le type de fiscalité est très important. Est-ce qu'on fiscalise l'activité ou est-ce qu'on fiscalise la personne ou l'individu ? Donc, on n'a pas réglé ce problème dans les pays en développement.
Grégoire Rota-Graziosi, durant la diffusion de ce reportage, je vous voyais lever les yeux au ciel. Qu'est-ce qui provoquait cette réaction ?
Ouais, c'est par rapport à l'évaluation discrétionnaire que font les fonctionnaires, je ne sais pas même si ce sont des fonctionnaires de la Direction Générale des Impôts qui collectent cette patente qui, d'après le reportage, n'existe plus dans la loi. Et donc là, vous rentrez sur des questions de parafiscalité. Ça ressemble à de l'impôt, mais ce n'est pas collecté ni par l'impôt, ni par la DGI, ni par la Direction Générale des Impôts, ni par la Direction Générale des Douanes, mais par des agences ou par tout autre organisme parapublic, et ça a le même effet. Et par exemple, je veux dire...
C'est-à-dire ça a le même effet ? Ça ressemble à l'impôt, mais ça n'en est pas. C'est-à-dire que l'argent va où ?
Ça n'est pas consolidé au budget de l'État. Et donc, vous avez ce problème-là, notamment en Afrique centrale, mais aussi dans le Maghreb, où vous avez une multitude d'agences qui vont se donner des prérogatives en termes de parafiscalité, encore une fois. Et si vous voulez, il y avait une étude intéressante il y a quelques années où en Russie, sous le gouvernement de Yeltsin, plus on s'éloignait de Moscou, plus le nombre de prélèvements augmentait. Donc on avait un prélèvement à faire aux pompiers, aux ramasseurs de poubelles, à la police, chacun, et les impôts n'apparaissaient plus. Vous voyez, il y avait une dilution du pouvoir de l'État. C'est parafiscalité.
Par le morcellement de l'impôt.
Ouais, par la fragmentation du pouvoir de lever l'impôt qui est conféré à des agences qui doivent, par la loi, peut-être avoir une certaine autonomie financière. Et donc, vous avez des agences de l'environnement, des agences, des marchés publics qui vont gérer les marchés publics et qui vont prendre 1% sur tous les marchés publics. Donc, vous voyez, c'est des types de prélèvements, mais c'est pas forcément l'agence sur les régulations des télécommunications qui taxe, mais ce n'est pas une taxe, qui taxe la téléphonie mobile assise sur le chiffre d'affaires, mais ça ne rentre pas systématiquement dans les caisses de l'État.
Est-ce que ça reste dans les caisses de l'entreprise ?
Voilà, ça reste dans les caisses de l'agence.
C'est une question que je vous pose.
Ah, ça, je sais pas.
Kako Lubukpo, oui. Cette dilution du pouvoir, du pouvoir de l'État, en quelque sorte, est-ce que c'est quelque chose de massif en Afrique ?
Ah oui, ce qu'on observe en Afrique, c'est que l'État est très présent, mais il n'est pas forcément efficace, et encore moins efficient. Et donc, vous avez cette tentation que je qualifierais de trop d'impôts tue l'impôt, donc l'État a tendance à tuer la poule aux œufs d'or en surfiscalisant les rares entreprises formelles, mais en contrepartie, l'État a des moyens qui ne sont pas toujours très clairs pour récupérer des ressources dans le milieu informel. Tout à l'heure, on parlait du foncier. On voit bien que ce sont quand même les mêmes personnes qui détiennent le plus de terrain et de plus en plus dans les pays africains. Et donc, moi, je crois que l'enjeu ici, notamment par rapport à la transition fiscale qui se dessine, ça va être aller vers l'imposition du patrimoine. Ça me paraît tout à fait fondamental.
Qu'est-ce que vous appelez la transition fiscale ? De quoi parlez-vous ?
Oui, vous savez que dans les négociations en cours, notamment entre l'Afrique et l'Union européenne, dans le cadre des accords de partenariat économique, la fiscalité de porte, hein, les droits de douane vont certainement baisser. Or, c'est cette partie de la fiscalité qui rapporte beaucoup à l'État. Et donc, la transition fiscale, ça va être la baisse de la fiscalité de porte et l'augmentation de la fiscalité directe. Donc, payée par les personnes, les entreprises. Bon. Et là, il va se jouer des choses très importantes parce que dans cette période de transition, il peut y avoir des manques à gagner importants pour les États qui, en plus, sont dans des processus d'émergence avec des dépenses folles en termes d'infrastructures. Et donc, d'où la question de la dette qui va revenir de plein fouet et dont parlait Bruno Le Maire tout à l'heure.
C'était Codici Eco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de la fiscalité en Afrique avec deux invités. Kako Nubukpo, chercheur au CIRAD, professeur d'économie à l'université de Lomé au Togo, et Grégoire Rota-Graziosi, professeur d'économie à l'université d'Auvergne à Clermont-Ferrand, directeur du CERDI, un centre très important de recherche sur le développement international. Il y a tout juste 2 ans, l'Égypte, au bord de la faillite, a décidé d'en finir avec les subventions à l'énergie. Cela représentait plus de 20% du budget annuel de l'État. Mais comme cette dépense en moins ne suffisait pas à permettre d'éponger la dette du pays, le Caire a mis en place toute une série de nouvelles taxes et impôts à la consommation. En septembre 2016, par exemple, le Parlement égyptien a voté l'instauration d'une taxe sur la valeur ajoutée, une TVA, de 13% la première année, puis 14%. En attendant les créations d'emplois tant espérées, tant annoncées, c'est le consommateur égyptien qui prend sur ses épaules le poids de ces réformes. En Égypte, les prix ont doublé, voire triplé en l'espace de 2 ans, ce qui est colossal. C'est un reportage Éco d'ici Éco d'ailleurs, signé François Imfer Kataji au Caire.
Difficile de convaincre les commerçants du quartier de Dohi à l'est du Caire de parler des réformes économiques et de la TVA instaurées récemment. La grande majorité d'entre eux a peur de s'exprimer librement. La directrice de ce magasin de vêtements moyenne gamme, Madame Jayed, accepte néanmoins de répondre à nos questions. « Ça ne peut pas être pire », dit-elle en souriant. Elle explique souffrir énormément de la politique fiscale de l'Égypte, qui est pourtant mise à l'honneur par les économistes du FMI ou de la Banque mondiale.
Ce n'est pas juste, bien sûr que non. Nous sommes en période post-révolutionnaire. Nous aurions dû comprendre à quel point les gens souffrent. Mais en fait, c'est pire encore pour tout le monde, car tout devient très cher et les salaires, eux, n'évoluent pas. Les clients doivent toujours dépenser plus, sans gagner plus. Si vous voulez imposer des taxes, alors augmentez les salaires. Sinon, ce n'est pas juste.
La commerçante regrette une chute de son chiffre d'affaires de 30% depuis la série de réformes économiques initiées en 2016.
Avant, les gens achetaient des vêtements pour être élégants ou à la mode ou pour s'amuser. Mais maintenant, ils s'achètent des vêtements par nécessité uniquement.
En réajustant son voile coloré, elle regrette aussi les facilités fiscales ou les accords spécifiques en termes de taxes douanières dont bénéficient les grandes chaînes internationales de vêtements qui s'installent en Égypte. Sally, une cliente de 40 ans, est en train d'essayer un jean à la caisse en entendant cette colère contre l'augmentation des prix. Elle estime par ailleurs faire partie de la classe moyenne supérieure, celle qui, selon elle, souffre le plus des augmentations de prix. Elle en parle avec cette façon très singulière qu'ont les riches Égyptiens de donner des lettres aux différentes classes sociales.
Je crois que c'est surtout la classe B qui est très affectée. Les A et les D n'en souffrent pas. Les C non plus, je pense, parce qu'ils reportent sur nous, la classe moyenne, tous les coûts. Les employés de maison, par exemple, s'ils avaient l'habitude d'être payés 5 euros par jour, maintenant, ils demandent 10. Donc, c'est moi qui paye la différence.
En Égypte, plus de 60% de la population vit avec moins de 5 dollars par jour. Les pauvres sont en réalité énormément fragilisés aussi par l'inflation record, environ 30% par an. Un peu plus loin, Girgis, marchand de lunettes de vue et de soleil, déplore surtout le timing de la mise en place de la TVA qui a été instaurée en même temps que la dévaluation de la livre et la coupe des subventions aux énergies.
Il peut y avoir des augmentations de prix parce que le pays fait face à une grave crise économique, mais pas toutes ces taxes en même temps, pas aussi rapidement.
Toutes ces mesures ont toutefois permis à l'Égypte de réduire ses dépenses et de consolider sa fiscalité, même si la dette extérieure continue, elle, d'augmenter. Patience, répète inlassablement le président Abdel Fattah el-Sissi aux Égyptiens. Harvard, la célèbre université américaine, classe l'Égypte au troisième rang des pays qui enregistreront la plus forte croissance économique au monde d'ici 2026. Mais pour le moment, les Égyptiens payent au prix fort le coût social de ces réformes économiques.
Un reportage au Caire signé François Humfer Kataji. Qu'est-ce qu'on y peut, disons en quelque sorte, ces consommateurs égyptiens, Grégoire Rota-Graziosi?
Ouais, alors là, on dépasse sérieusement le cadre de la fiscalité, parce que quand même, là, c'est trois réformes en même temps.
Il y a quand même des réformes fiscales importantes.
Il y a l'introduction de la TVA, mais c'est pas précisé. J'imagine que la TVA vient remplacer des impôts beaucoup plus inefficaces, qui sont les taxes sur la production, les taxes sur le chiffre d'affaires, qui ont un effet cascade. Vous savez, la TVA, une invention française, même s'il y a eu...
Une invention française mise en place.
Et elle est adoptée par près de 190 pays. Le seul pays développé qui n'a pas la TVA, c'est les États-Unis. Sinon, c'est vraiment l'outil de modernisation de la fiscalité. Et c'est la TVA propre à bien appliquer est beaucoup plus efficace que ces alternatives qui sont, encore une fois, l'impôt sur le chiffre d'affaires ou l'impôt sur les ventes ou l'impôt même sur la production. Donc là, on combine une TVA avec une dévaluation et la fin des subventions aux produits pétroliers. J'imagine que ça peut devenir assez explosif, oui. Parce qu'en termes de... Là, vous avez quand même une redistribution des richesses et même les classes, les individus se considèrent déjà dans des classes qui sont apparemment des quintiles de revenus. Et c'est assez impressionnant, oui.
Pourquoi impressionnant?
ABCD, j'ai jamais entendu des gens interrogés dans la rue en France se dire de relever du premier ou du deuxième quintile.
Mais... Si vous vous souvenez bien, dans le reportage que nous a envoyé Sébastien Lemaitre, qu'on a diffusé dans l'émission tout à l'heure, au début, les gens se classaient dans la première, deuxième ou troisième catégorie de propriétaires. Donc, ouais. C'est à peu près la même chose. Je voudrais faire une... Oui, Kakonobuko.
Oui, oui, c'est-à-dire que là, on voit typiquement le problème de l'arbitrage entre le court terme et le moyen terme. Parce que là, pour des raisons comptables, il y a une surpression fiscale, mais on se demande si ça ne va pas décourager l'entreprise en Égypte et qu'à terme, si ça va produire les effets escomptés.
Parce que la levée de l'impôt, Grégoire Rota-Graziosi, peut avoir un impact sur la croissance économique d'un pays ?
Oui. Oui.
De quelle manière ? Comment est-ce que ça se passe ? Quel est le lien entre levée de l'impôt ou non-perception de l'impôt et croissance économique ?
Voilà, vous arrivez à un des cœurs du problème, c'est pourquoi on exonère ?
On a deux minutes pour évoquer le cœur du problème.
Une des raisons des exonérations, c'est justement d'attirer les capitaux pour améliorer le retour sur investissement de ces capitaux. Et ce retour est net de la fiscalité. De la fiscalité du pays. Donc si vous avez une pression fiscale excessive, vous dissuadez l'investissement direct étranger. Et vous dissuadez donc le développement économique qui passe par des investissements directs étrangers. Ce qui est dommageable, c'est qu'on procure les mêmes avantages fiscaux à des entreprises qui seraient venues quand même dans le pays, notamment pour extraire les ressources naturelles parce qu'elles sont dans le pays, à les mêmes avantages à ces entreprises-là qu'à des entreprises qui, elles, ont la latitude d'aller dans un pays pour faire de la confection, qui n'ont pas les mêmes racines, on parle d'irréversibilité de l'investissement, c'est-à-dire qu'elles peuvent bouger d'un pays à l'autre en fonction des avantages fiscaux qu'elles ont.
Sur cette question de la croissance, du lien entre le montant de l'impôt et la croissance.
Voilà, on se dit s'il y a beaucoup de recettes fiscales, l'État pourra accompagner plus le secteur privé et donc on aura plus de croissance économique. Et comme les impôts sont proportionnels à la croissance, on aura plus de recettes fiscales encore. Et donc, c'est un peu le schéma vertueux. Le problème dans ce schéma, c'est qu'en Afrique, lorsque vous investissez, vous n'êtes pas sûr d'avoir les retours sur investissement parce que beaucoup d'éléments sont importés dans vos investissements. Et donc, ça creuse souvent la balance commerciale. Et donc, les États ont souvent peur d'ouvrir les vannes du crédit parce que ça n'engendre pas toujours les recettes escomptées. Et puis, une illustration avec Areva et le Niger, on se rend compte que les exonérations de TVA dont Areva bénéficie au Niger, ça fait à peu près 5 millions.
Ça s'appelle plus Areva.
C'est le canal historique, quoi. C'est 5 millions d'euros par an. Les Nigériens estiment que ça pourrait permettre de construire 500 écoles par an. C'est important de voir exactement les effets de ces exonérations, mais c'est en relation avec l'économie qui est un circuit.
Grégoire Rota-Graziosi, un dernier
point. Parce que justement, là, je ne veux pas prendre la défense d'Ex-Areva, mais les exonérations de TVA d'entreprises exportatrices ne peuvent pas être considérées comme des pertes de recettes, puisque par définition, la TVA, c'est un impôt sur la consommation intérieure, et donc en aucun cas un impôt sur les exportations. Donc les taux, ils sont à zéro. Donc lorsque Areva bénéficie, et beaucoup de sociétés minières bénéficient d'exonérations, ce ne sont pas des pertes de recettes, c'est en fait des facilités. Il est dommageable, en revanche, que parce qu'elles sont exonérées, elles ne participent pas à la formalisation de l'économie par la chaîne de la TVA. Mais voilà la complexité de la TVA, enfin, qui est vraiment intéressante.
Mais la complexité de la fiscalité en général. Mais je vous remercie, Grégoire Rota-Graziosi, Kakonouboko, d'avoir fait simple. Je crois qu'on a fait simple pendant cette émission. C'était pas trop compliqué. L'irréversibilité, l'assiette fiscale, tous ces termes-là n'ont pas pollué trop l'émission qui est maintenant terminée. Merci donc à vous deux d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez, vous, auditeurs, nous réécouter sur le site internet www.rfi.fr que vous connaissez bien ou via l'application Pure Radio sur votre smartphone, toujours à l'onglet émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.